présidentielle de Bangui. Je voulais juste préciser que le débat n'aura pas lieu tout de suite, je serai par rapport à la présidence, par l'intervention de notre père et qui a été en réponse, qui est fait, ça sera juste après le rapport.
Monsieur le garde des Sceaux de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les autres personnalités, Madame la Sénatrice, Monsieur le Maire, Monsieur le représentant du Conseil national des barreaux, cher Éric, Monsieur le représentant de la présidence de la Conférence nationale des bâtonniers, cher Franck, chers amis du monde associatif et syndical, Madame la Présidente de la FNUJA, chère Annelise, Messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, mes remerciements tout d'abord à la dynamique section du SA de Clermont-Ferrand, qui sous la houlette de sa, je veux dire plus présidente, parce qu'elle a été indiquée, Sonia Signoret, s'est mise en quatre pour nous accueillir au mieux dans le polydôme de la SA capitale auvergnate. Monsieur le bâtonnier Savary, qui est parti, nous nous plaçons sous votre protection. Il me plaît de mentionner, en exergue de ce rapport moral, cette citation de l'écrivain et moraliste sicilien Leonardo Ciaccia, mort en 1989 et auteur notamment de Le contexte et Totomodo. Tout est lié pour moi à la question de la justice, qui implique celle de la liberté, de la dignité humaine et du respect réciproque que se doivent des individus. Liberté, dignité, respect. L'exercice du rapport moral est toujours un peu périlleux, car comme il n'y a pas au SAF de secrétaire général qui serait chargé de faire le rapport d'activité, c'est un mélange des deux, et ma manie de vouloir toujours tendre un peu à l'exhaustivité m'aura fait passer quelques nuits blanches. Mais au final, après avoir pris un temps de réflexion, c'est ce qui nous manque le plus parfois, le fameux guillemets, on fait un pas de côté, on réfléchit, et c'est pas triste, cher AGB dans l'an 01. Référence qui parlera plus aux 68 arts dont je suis qu'aux jeunes générations. J'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel, car nous sommes en combat. Un peu d'histoire d'abord. Le SAF a 40 ans, du moins au niveau de son congrès, puisque le premier s'est tenu à Grenoble du 9 au 11 novembre 1974, sous la houlette du président Francis Jacob, dont le rapport moral avait déjà pour thème la crise de la justice. Quel est le fondement du SAF? Il est rappelé par l'article 2 de ses statuts. Ce syndicat a pour objet la défense intransigeante de l'indépendance des barreaux et de leurs membres contre tous les empiétements, quelle que soit leur forme. La lutte pour l'extension des droits et prérogatives de la défense et des possibilités d'intervention des avocats. L'action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats en vue d'assurer les conditions économiques d'existence et de bien exercice des avocats postulants ou non, de garder largement ouvertes aux jeunes les possibilités d'accès aux barreaux, de garantir les droits sociaux et les retraites. La recherche avec les organisations représentatives des autres professions judiciaires des bases d'une action commune pour une meilleure justice. L'action en vue d'associer les avocats aux initiatives tendant à assurer le fonctionnement d'une justice plus démocratique et plus proche des citoyens et de mieux garantir les droits et les libertés publiques individuelles. L'article 6 a été modifié l'an dernier à Lyon. Il a été adjoint à l'article 7. Ancien article 6, l'action pour la défense des droits de la défense et des libertés dans le monde. Nouvelle version, toute action relative au fonctionnement de la justice, aux conditions de détention, ainsi qu'aux droits des justiciables et de toute personne privée de liberté. Et enfin le 7, l'action pour la défense, des droits de la défense et des libertés dans le monde. Beau et vaste programme. À l'occasion des 10 ans du SAF, a été éditée une brochure qui comporte la liste des présidents et des correspondants du syndicat. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire certains noms. Bordeaux, Dominique Deltil. Montpellier, Jean-Jacques Gandini, Luc Kakacharian. Grenoble, Michel Bénichou. Nantes, Dominique Rimbourg. Lille, Patrick Tilly, Vincent Potier. Clermont-Ferrand, Jean-Louis Bory. Colmar, Serge Rosenbly. Paris, Henri Leclerc, Paul Bouaziz. Rouen, Philippe Le Sen. Poitiers, Simone Brunet. Et Évry, Franck Nathalie. En lien avec les turbulences que nous vivons en ce qui concerne l'aide juridictionnelle, et sur lesquelles je vais revenir, je vais citer quelques extraits de la lettre que le candidat à la présidence de la République, François Mitterrand, avait adressé le 4 mai 1981 à Paul Bouaziz, le président du SAF à l'époque. Je cite « Élu président de la République, j'entends donner aux avocats les moyens de remplir pleinement, dans le cadre de leur statut libéral auquel je suis très attaché, des missions du véritable service public dont ils ont la charge. En matière civile, une réforme de l'aide judiciaire actuelle s'impose. Son domaine trop étroit, son fonctionnement très administratif et l'effort tout à fait insuffisant de l'État interdisent qu'elle permette un égal accès de tous aux droits et à la justice. Je propose de mettre en place une aide juridique de portée beaucoup plus vaste, dans le cadre de laquelle les auxiliaires de justice appelés à prêter leur concours seront désignés et rémunérés dans des conditions aussi justes que possible. Je veillerai à ce que la justice soit dotée de moyens financiers, matériels et en personnel, qui lui font aujourd'hui cruellement défaut. Il faut qu'elle puisse remplir le rôle fondamental qui lui revient dans une société démocratique. Fermez le banc. Comme vous avez pu le constater, Madame Taubira n'est pas là. Et Simone Signaret vous l'a déjà dit. Après vous avoir ignoré de sa présence à notre congrès de Caen en 2012, si elle avait accueilli avec les honneurs votre présidente Castel-Talman et chaleureusement applaudi, après plus de 10 ans de disette, elle nous avait déjà fait faux bond lors de notre congrès de Lyon en 2013, où une vidéo, toutefois, nous avait été destinée, mais nous était parvenue, alléguant un dysfonctionnement du cabinet, qu'au lendemain de l'exposé de mon rapport moral. Échaudé par l'incident, j'ai donc invité cette année, dès le 11 février, avec confirmation le 22 juillet, en lui joignant le programme du Congrès. Sans retour de la chancellerie, j'envoie un courrier début septembre et prends même la peine de téléphoner à la mi-septembre pour m'entendre dire par le chef de cabinet qu'elle viendrait probablement et qu'un courrier allait de toute façon, très officiellement, être envoyé la semaine suivante. J'attends toujours. En lieu et place, j'ai reçu mercredi matin un message de Sonia m'indiquant avoir appris par la préfecture que Madame la garde des Sceaux ne viendrait pas. Amertume et en même temps colère d'être traitée ainsi de cette façon, puis surprise de recevoir mercredi soir à 19h30 un simple courriel de Madame Delphine Humbert, la conseillère des professions judiciaires, m'indiquant que la garde des Sceaux ne pouvait se rendre au congrès, guillemets, contrainte par un emploi du temps complexe et tendu, tout en me proposant d'échanger de vive voix à propos, guillemets, des sujets qui nous préoccupent, les professions réglementées. Ce que nous avons fait vendredi après-midi. J'y reviendrai plus tard. Pas de garde des Sceaux donc. Mais vous avez pu entendre, effectivement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice de la République de Guinée, notre ami Cheikh Sako. Depuis sa prise de fonction, en juin 2014, il œuvre avec courage et détermination, mettant en place les instruments nécessaires à l'instauration dans son pays de l'état de droit. Monsieur le ministre, vous avez tous nos encouragements. Vous avez fait des choix et vous les assumez. Où en est à ce propos notre gouvernement de gauche à la mi-mandat, en s'en tenant au domaine qui nous concerne. Notre confrère William Bourdon, animateur de l'association Sherpa, association de défense et de protection des victimes de crimes économiques, était membre de la campagne de François Hollande, en charge des droits de l'homme et des libertés publiques. Cela ne l'a pas empêché de déclarer, dans le journal Libération de ce 31 octobre, je cite, « La différence gauche-droite est cosmétique. Il y a eu de belles déclarations. Mais on fait l'inverse. beaucoup ont le sentiment qu'un terrible abus de confiance a été commis. Tout est à rebours aujourd'hui. Certes, il y a un principe de réalité économique, très tyrannique, mais raison de plus pour faire preuve de courage politique. Cela m'incite à qualifier l'année 2014 d'un mot et d'une locution. Maelstrom et un ressort s'est cassé. Maelstrom, c'est le tourbillon dans lequel est pris notre profession. Entre la généralisation d'Internet qui nous oblige à repenser complètement la façon d'analyser notre métier et notre relation à la clientèle d'une part, et d'une certaine évolution possible, probable, diront les pessimistes, de notre profession à l'aune du projet de loi relatif à la croissance et l'activité concocté par le ministre de l'économie Emmanuel Macron, tient au fait où est passée Mme Taubira, et complété par le rapport parlementaire de M. Ferrand, le titre pour une nouvelle jeunesse, d'autre part. Un ressort s'est cassé, c'est le titre de mon éditorial dans l'aide du 5 octobre. C'est la marque de notre désamour envers le gouvernement libéral autoritaire du Premier ministre, ex-ministre de l'Intérieur, très en place depuis le mois de printemps dernier par le président de la République. Nous aimerions en effet que ce Premier ministre, après son célèbre « J'aime l'entreprise », proclame avec la même conviction « J'aime la justice ». Mais comment ne pas être choqué d'entendre le ministre du Travail, alors que le nombre de chômeurs s'envole pour dépasser le cap des 3,5 millions, souhaiter, guillemets, qu'on vérifie que les chômeurs retrouvent du travail, sinon on les radie. C'est prendre le problème à l'envers. Dans la même ligne, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, continue à vouloir détricoter le droit du travail. Après le travail de nuit et le dimanche, et le relèvement des seuils sociaux, il vient de suggérer, le 30 octobre, que la France sorte de la Convention 158 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui oblige à justifier un licenciement, de lever la crainte de l'embauche chez chef d'entreprise. L'interview au Journal de l'Opinion, je cite, « Les chefs d'entreprise, quand ils peuvent embaucher, craignent de se retrouver dans les prud'hommes s'ils rompent le contrat. C'est un des principaux freins à l'embauche. Reste que pour lever le frein juridique, il faut sortir de la convention de l'OIT qui nous oblige à justifier les motifs du licenciement. Tant qu'on aura cette contrainte supranationale, peu importe le contrat, le fond du problème ne sera pas traité. Où est la dignité, le respect de l'homme, M. Gattaz? Pour vous, les travailleurs ne sont que des numéros jetables, des variables d'ajustement. Allez jusqu'au bout, comme votre compère anglais. En Grande-Bretagne, le stade ultime du travail précaire, c'est le contrat zéro heure. Il s'agit d'un contrat de travail, adoubé par le Parti travailliste, au nom de la lutte contre le chômage déjà, qui ne garantit aucun minimum d'heures aux employés. Lorsque l'employeur a besoin de main-d'œuvre, il appelle l'employé. Si en cours de route, la commande a changé, un SMS l'informe que sa mission est annulée. L'employé est payé à l'heure et ne sait jamais à l'avance combien d'heures il va travailler. Il a par contre l'obligation de courir quand on le siffle. On compte déjà 1,4 million de contrats de ce type en Angleterre. En outre, ils contiennent une clause d'exclusivité interdisant aux salariés de travailler ailleurs. Guillemets, ils peuvent m'appeler une heure avant pour une équipe de 12 heures. J'attends que le téléphone sonne. Voilà les négriers modernes. 90% des 83 000 employés de McDonald's en Angleterre sont déjà soumis à ce type de contrat. Droit du travail, droit pénal. Nous attendions beaucoup de la grande réforme pénale annoncée. Certes, nous savons, Madame le garde des Sceaux, que vous avez bataillé, ferraillé avec votre collègue de l'Intérieur, devenu depuis Premier ministre, et je m'en étais fait l'écho d'ailleurs dans mon rapport moral l'an dernier. J'avais indiqué également que l'examen parlementaire de votre projet de loi, prévu pour le printemps 2014, donc après les municipales, dont le résultat désastreux était déjà envisagé, risquait d'être à nouveau repoussé, sine die. Et là, je me suis trompé. Votre obstination, il faut le reconnaître, a eu raison de l'opposition de Manuel Valls, pourtant devenu Premier ministre, et a permis de déboucher effectivement sur la loi du 17 juillet 2014. Certes, il y a un certain nombre d'avancées importantes qu'il ne faut pas négliger. Mais la désocialisation de l'emprisonnement comme unique réponse pénale n'a pas été retenue. La contrainte pénale qui devait marquer cette rupture est réduite à une réponse parmi d'autres, adossée à l'emprisonnement, limitée dans les possibilités de son prononcé et quasiment confondue avec le sursis avec mise à l'épreuve dont elle peine à se différencier. Dans une tribune signée dans Mediapart avec Jean Danet, en sa qualité de membre du comité d'organisation de la conférence de consensus pour la réforme pénale et accessoirement ancien président du SAF, et Christine Lazerge, présidente de la CNCDH, je défendais l'élargissement de la contrainte pénale à tous les délits, car en limiter l'usage, en freiner toute efficacité. Nous n'avons pas été entendus. De même, le contrôle de la personne condamnée va primer sur l'accompagnement individualisé, qui a pourtant fait la preuve de son efficacité dans nombre de législations étrangères. Enfin, le statut de récidiviste, malgré l'abrogation, et il faut la remercier également, des peines planchers, reste stigmatisant et continuera de tenir à l'écart de mesures utiles d'aménagement des peines une partie significative de la population pénale. Par ailleurs, droits de l'homme et conditions pénitentiaires continuent à ne pas faire bon ménage. À l'initiative du SAF, un référé mesure utile a été engagé devant le tribunal administratif de Rennes pour permettre aux personnes détenues de pouvoir avoir un entretien téléphonique confidentiel avec leur avocat. L'ordonnance rendue le 24 avril nous donne satisfaction. Mais Madame la Garde des Sceaux a introduit un recours dans le Conseil d'État. Il en va de même avec le principe de l'encellulement individuel, prévu par la loi pénitentiaire de 2009, avec toutefois un moratoire de 5 ans qui tombe ce 24 novembre 2014. Eh bien, Madame la Garde des Sceaux a prévu de déposer un amendement au projet de loi sur le budget pour obtenir un nouveau moratoire jusqu'en 2018. Il y a actuellement 112 000 détenus en surnombre et 1200 dont sur un matelas. Le 1er octobre, Madame le garde des Sceaux a tenté de pointer du doigt l'ancienne majorité qui n'aurait pas provisionné un centime dans le plan de construction de 20 000 places. Mais elle s'est fait tacler, à juste titre, par nos amis de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, qui ont rappelé à cette occasion, guillemets, la bonne gestion publique aurait surtout commandé d'investir dès le début du mandat dans le développement des alternatives et des aménagements de peine plutôt que dans l'accroissement du parc carcéral et le renforcement de la sécurité en prison. À propos de cette surpopulation carcérale, après la prison des Baumettes à Marseille en 2012, évoquée dans mon précédent rapport moral, nos amis de l'EIP, toujours eux, ont engagé avec succès un référé liberté devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour traitement inhumain et dégradant à propos de la prison de Ducos le mois dernier. La chancellerie, pourtant, était parfaitement au courant, puisque le contrôleur général des prisons avait déjà rendu un rapport effaré en 2009, suivi d'un rapport consterné remis à la garde des Sceaux en juin 2013 par la mission conduite par Isabelle Gors, devenue le mois suivant directrice de l'administration pénitentiaire. Je cite, « Surencombrement massif, 998 détenus, dont 150 sur un matelas par terre, pour 570 places. On mange sur ses genoux, à 4 dans 9 mètres carrés, dans des cellules où prolifèrent rats, grenouilles, fourmis et autres scolopendres venimeux. Un rouleau de papier de toilette et un savon par mois. L'entretien du linge n'est pas assuré. Le bruit est infernal. Les odeurs remontent des égouts et les murs sont noirs de crasse. Cette promiscuité engendre aussi une violence importante. Ce constat est accablant. Il se double également d'un échec au niveau de la politique pénale. D'après le rapport de Mme Gors, justement, la Martinique se caractérise par un taux de détention élevé et un milieu ouvert indigent. Surtout, la justice pénale au tribunal correctionnel de Fort-de-France est très répressive. Il n'est pas rare que des peines supérieures à 10 ans d'emprisonnement soient prononcées en comparution immédiate. La patrie des droits de l'homme a encore du pain sur la planche. Et pour couronner le tout, le Parlement vient d'adopter, ce 4 novembre, une loi d'exception pour Internet, de lutte contre le terrorisme, présentée en urgence par le gouvernement et encore durcie par les parlementaires. Au prétexte de la menace antiterroriste, on renforce dans l'urgence, sans réel débat démocratique, un arsenal répressif d'exception déjà disproportionné. En fait, nul n'est à l'abri, car les mesures envisagées portent gravement atteinte aux libertés fondamentales de tous et dénaturent une société qui bascule dans la suspicion et la surveillance généralisée. Renforcement des pouvoirs coercitifs de l'autorité administrative et contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne pourtant des continuelles des libertés individuelles, sciemment contournée. L'antiterrorisme se fait le juge d'une intention terroriste en devenir et diffuse une culture de la suspicion et de la surveillance. On débouche ainsi sur une neutralisation préventive et un contrôle généralisé des populations, antinomique avec un état de droit. L'actuelle majorité avait déjà invoqué leur caractère nécessairement provisoire des législations adoptées dans l'après 11 septembre 2001, dont elle mesurait pourtant le caractère attentatoire aux libertés individuelles. Elle vient de récidiver sans état d'âme. Comme je vous l'ai dit à propos liminaire, il s'agit d'un rapport moral et non d'activité. Avant donc d'en venir aux deux points essentiels que sont l'aide juridictionnelle et la déréglementation, je ne ferai donc que mentionner brièvement d'autres domaines d'activité qui nous préoccupent, tout en renvoyant pour de plus amples détails au communiqué que nous avons pris à ces propos. En un an, le SAF a produit 60 communiqués. Action de groupe, timide avancée avec la loi de mars 2014, qui l'introduit dans notre droit, mais la réserve au droit de la consommation, avec mise en mouvement uniquement par les associations agréées de consommateurs. Allure, la nouvelle loi contient un certain nombre d'avancées importantes pour les locataires, mais en deçà des prévisions initiales, notamment pour l'encadrement des loyers. Par contre, la cession des parts de SCI, réservée initialement aux notaires, ont été étendues aux avocats et pas aux experts-comptables. Annie, dénonciation du nouveau différé d'indemnisation pour les chômeurs. Étrangers et droits d'asile, les réformes gouvernementales peuvent se résumer en deux mots. Rendement et éloignement pour des étrangers présumés fraudeurs ou indésirables. Le niveau des éloignements forcés atteint son plus haut niveau depuis 2006. La stigmatisation des populations roms continue et se banalise. Avancée, pourtant, grâce aux directives européennes, pour l'avocat qui va pouvoir intervenir dans le cadre des procédures OFPRA. Par contre, situation toujours tendue à la CNDA, où la présidente veut accélérer l'évacuation des stocks de dossiers au détriment des droits à la défense. Greffier, soutien au mouvement des greffiers, auxiliaire indispensable pour la mise en œuvre d'une justice indépendante et accessible à tous, aux fins de revalorisation de leur rémunération et de relèvement de leur grille indiciaire, mais non aux greffiers juridictionnels. Piste évoquée lors des journées de l'UNESCO en janvier sur la justice du XXIe siècle. Justice du XXIe siècle, justement. Formidable travail accompli ce propos par Catherine Glon, membre du SAF au bureau du SAF, bureau du CNB, qui a réussi à faire voter à la quasi-unanimité du CNB 44 propositions regroupées en 4 rubriques, l'accès facilité aux droits effectifs, la résolution des conflits par la volonté des parties, la simplification du recours au juge qui demeure garant des droits des parties, l'aide juridictionnelle. Nous y voilà, l'aide juridictionnelle. Parmi les 10 mesures préconisées par le CNB, je noterai la systématisation de la consultation rémunérée d'un avocat préalable à toute action juridique ou judiciaire, la diversification des sources de financement avec en priorité la taxation des mutations et des actes juridiques, la création d'un fonds d'aide juridique et, quatrième point, abandon du système actuel d'indemnisation de l'avocat au profit d'une véritable rémunération de sa prestation, incluant les frais de fonctionnement du cabinet et la prestation intellectuelle. Mais comme l'indique Catherine, les textes de promulgation promis ne sont jamais sortis. La garde des Sceaux a annoncé des réformes qui n'arrivent pas. Cela fait des années qu'on nous mène en bateau, et ça ne peut plus durer. Le chantier de l'aide juridictionnelle, finalement, reste un chantier. Lors de son intervention pourtant au colloque sur la justice du XXIe siècle, au mois de janvier à l'UNESCO, le Premier ministre d'alors, Jean-Marc Ayrault, avait pourtant déclaré, je le cite, « L'aide juridictionnelle est une politique essentielle de solidarité. Nous avons donc le devoir de la réformer pour la préserver, et c'est ce travail que nous avons engagé sur la base des travaux d'évaluation lancés par l'inspection générale des services judiciaires. » C'est pratiquement au même moment que j'ai été entendu en tant que président du SAF par M. Alain Carré-Pirat, magistrat honoraire chargé par la garde des Sceaux de lui produire un rapport sur l'accès au droit et l'aide juridictionnelle, faisant suite justement sur la pression du mouvement de grève que nous avons mené en août 2013. M. Carré-Pirat était invité à proposer des sources de financement pérennes avec un premier volet à mettre en action dès le 1er avril 2014. La remise de son rapport étant prévue pour fin février. Ce rapport, en fait, intitulé « Note à Madame le garde des Sceaux », a été enterré. Et ce n'est que bien plus tard, et de façon officieuse, que nous avons pu en prendre connaissance. Pour M. Carré-Pirat, l'accès au droit, sous ses diverses formes, c'est-à-dire depuis la consultation juridique, en passant par diverses formes que peuvent prendre les voies amiables de règlement des litiges jusqu'à la phase contentieuse, est regardé comme un droit fondamental. Mais, pour lui, la première solidarité doit reposer sur la profession d'avocat, par le biais d'une contribution financière des avocats ne participant pas de manière significative au traitement des dossiers dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Le montant en serait de 300 euros annuels pour les avocats ayant un revenu supérieur à 120 000 euros, 200 euros entre 60 000 et 120 000, 100 euros de 36 000 à 6 000 et exonération pour les moins de 36 000 euros. Mais il veut aussi instaurer une solidarité qui s'étendrait à l'ensemble des professions qui concernent des activités juridiques, notaire, huissier de justice, greffier des tribunaux de commerce, administrateur judiciaire, avocat au conseil et expert comptable. Nous ne sommes d'ailleurs pas d'accord avec ces deux propositions, mais par contre, nous approuvons la troisième que je vais vous lire maintenant. Il a dit dans ce rapport de M. Carré-Pirat qui a été enterré, l'augmentation de 3,5% de tous les droits fixes, proportionnels et progressifs, applicables à l'ensemble des actes soumis à enregistrement, qui devrait générer un surplus de 313 millions d'euros. Une somme qui permettrait justement de quasiment doubler le budget consacré à l'AGI, qui est actuellement de 360 millions d'euros, pour passer finalement à 319 récemment. Et ce doublement qui constitue pour nous un préalable à toute discussion. Ce rapport n'ayant pas été déposé, la date du 1er avril largement dépassée, l'Assemblée générale du CNB du 12 mai vote la grève le 9 juin, grève qui sera suivie dans 141 des 161 barreaux, même s'il faut déplorer qu'une fois de plus, l'ordre de Paris n'ait pas bougé. Certains barreaux, et pas des moindres, ont continué ce mouvement de grève pendant une semaine. Selon cette inertie de continuer les pouvoirs publics, Yves Tamé, vice-président de la commission accès au droit du CNB, rédigea, guillemets, la motion à laquelle vous avez échappé, dont je ne peux résister à vous livrer le contenu. Le CNB, seul représentant de la profession d'avocat, prenant acte de l'état désespéré des finances publiques, partage sans réserve l'avis du gouvernement sur les buts poursuivis et les moyens engagés. Il s'associe pleinement à la politique visant à restaurer les marges des entreprises, seules créatrices de richesses et donc d'emplois, par une politique déterminée privilégiant l'offre et imposant l'austérité nécessaire au rétablissement des comptes de la nation. C'est pourquoi, constatant le poids considérable supporté par le budget de l'État en matière d'indemnisation des avocats intervenant en matière d'aide juridictionnelle, environ 300 millions d'euros par an, le CNB, 1. Décide de l'arrêt total de l'activité des avocats au titre de l'aide juridictionnelle jusqu'à ce que l'objectif d'un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB soit atteint. 2. Propose qu'en matière de défense des libertés individuelles, le principe du mécénat et du pro bono, principalement à la charge des grands cabinets d'affaires, soit mis en œuvre. 3. regrette que cet effort civique incontestable implique l'aggravation de la situation des justiciables les plus démunis, mais fait sienne les priorités effectuées par l'État. Le mouvement s'éclot provisoirement par une manifestation le 7 juillet d'une ampleur inégalée dans les rues de Paris, qui a rassemblé près de 6000 avocats, chiffre inégalé avec une forte présence du SAF, remarquée avec son orchestre de Rome. Dès le 8 juillet, le Premier ministre a décidé de nommer un parlementaire en mission, le député du Val-de-Marne, M. Le Bouillonnec, chargé de déposer avant la fin août un rapport sur le financement et la gouvernance de l'aide juridictionnelle. Ce rapport ne sera porté à la connaissance du CNB que le 9 octobre, à la veille de son AG des 10 et 11 octobre, et il ne sera remis officiellement à la garde des Sceaux que le 27 octobre. Il est prévu la pertinence du travail accompli sur un sujet aussi complexe, mais essentiel pour l'accès à la justice des plus démunis. Il souligne qu'il est grand temps que l'aide juridictionnelle, après 10 ans de rapports successifs, existe sans véritable résultat. Or, que dit ce rapport? Il a quand même le mérite, d'une part, de reconnaître que l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle travaille à perte et plus précisément est indemnisé à un taux 2 fois inférieur au seuil de rentabilité. De poser le problème du nécessaire rattrapage de la non-indexation de l'UV depuis 2007. D'ouvrir la voie à des financements complémentaires de l'aide juridictionnelle. De reconnaître enfin qu'il ne saurait revenir à la présence d'avocat de financer et même de cofinancer sur ses revenus le budget de l'aide juridictionnelle, tout en explorant la piste de la mutualisation et du regroupement des CARPA afin d'optimiser leur placement. Leur participation dans ces conditions d'un financement modulé sur la base du surplus ainsi dégagé, des missions d'agir dans une logique de péréquation et de solidarité, mérite effectivement discussion. Mais vu la tardivité du dépôt du rapport, il est trop tard pour obtenir, dans le cadre de l'actuel projet de loi de finances, le rattrapage de la non-indexation. Il persiste donc dans la demande d'une contribution de solidarité de 300 euros lui aussi, pour les 58% d'avocats ne pratiquant pas le juridictionnel, soit 35 000. Ce qui, en toute hypothèse, ne rapporterait que 10,5 millions d'euros, soit 3% par rapport aux 360 millions d'euros de compléments nécessaires. Et en outre, il exclut, ce que je disais à l'instant, la taxe des actes juridiques, pourtant préconisée par son prédécesseur, Carré Pirat, qui la qualifie pourtant de provision privilégiée, d'autant qu'elle n'inciterait aucune organisation nouvelle, puisque le recouvrement des droits concernés s'inscrit dans un cadre législatif et procédural existant. Il n'est plus possible de continuer ainsi. Nous, les avocats du SAF, qui avons choisi par conviction de défendre les plus démunis, sommes en train de mettre en péril, dans des conditions, l'équilibre d'un cabinet. La lettre de mission du Premier ministre était pourtant claire. Mettre en route, dès 2015, des mesures opérationnelles de financement sans exclure aucune source permettant une juste rétribution des avocats. Faisons donc du mardi 8 novembre, dans le cadre de la semaine de mobilisation mise en place par la conférence des bâtonniers pour s'opposer au projet de loi relatif à la croissance et l'activité, non pas une journée comme on voit à la conférence de sensibilisation des juridictions, mais une journée de grève totale de toutes les juridictions. Mardi 18 novembre. J'ai dit 8 ? Non. J'ai mal lu, mardi 18 novembre. Excusez-moi. En effet, comme si les problèmes rencontrés pour le financement et la gouvernance de l'AGI ne suffisaient pas, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un projet de loi relatif à la croissance et à l'activité visant l'ensemble des professions réglementées, dont l'objectif serait de récupérer 6 milliards d'euros de rente de situation qui serait ainsi distribué aux consommateurs. Le porteur du projet de loi est le ministre de l'économie, le dénommé Macron, qui avait déjà servi du temps du rapport Attali, avec une garde des Sceaux dans cette affaire plutôt en retrait, sachant pourtant que ce rapport concerne l'ensemble des professions réglementées. La profession d'avocat apparaît comme l'une des moins concernées, puisqu'elle est ouverte à tous et qu'il suffit pour s'installer d'être attaché à un barreau. Il n'empêche, c'est une opération coup de poing, car c'est le gouvernement, sans concertation, sans étude d'impact préalable, et ce projet devant être examiné pour avis le 12 novembre, le CNB a convoqué à l'Assemblée générale extraordinaire le vendredi 14 pour prendre toute décision utile au vu de la version du projet qui sera finalement retenue, avec en appui le rapport du député Ferrand intitulé « Profession réglementée pour une nouvelle jeunesse » qui vient d'être déposé. 4 points principaux. Suppression de la postulation près le TGI, ouverture du capital d'exercice libéral, des sociétés d'exercice libéral entre les professions juridiques et judiciaires et la profession d'expert-comptable, création de structures d'exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et expertise-comptable, avocats en entreprise. Lors de la Convention nationale des avocats à Montpellier, dans son discours en présence de la garde des Sceaux, le 30 octobre, le président du CNB, Jean-Marie Burguburu, a tonné. La liberté de l'avocat est menacée. La profession est en guerre, et la guerre, c'est le projet Macron. Dans sa réponse, la garde des Sceaux a laissé percevoir qu'elle ne partageait peut-être pas la vision totale de son collègue ministre. Du moins, en l'état. Excusez-moi, il y a un mélange de feuilles. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Voilà. À l'heure du RPVA, il peut sembler paradoxal de vouloir conserver une postulation au niveau des TGI. Nous rappelons que la postulation permet en matière pénale de garantir un égal accès au juge et à l'avocat par un maillage territorial suffisant et de proposer de substituer la procession de TGI, ça c'est ce que dit le garde des Sceaux, par une postulation pour d'appel. Cela accentuerait le risque de métropolisation de la justice au détriment de territoires périphériques à l'image du déséquilibre entre Paris et la région parisienne. La suppression de la postulation au niveau des TGI, censée favoriser un meilleur accès du justiciable au droit, ne peut se faire sans une réforme de la prise en charge des missions de service public assumées par les avocats. Sans compter le risque de récession économique au niveau des petits barreaux, qui verront leur fonds CARPA se tarir au profit des CARPA des avocats plaidants, et se tariront aussi les intérêts générés par le placement des fonds CARPA, qui permettent d'assurer pourtant un certain nombre de prestations. L'avocat d'entreprise, véritable serpent de mer. À la suite pourtant du vote intervenu en 2010 qui avait rejeté l'avocat d'entreprise, le président du CNB avait annoncé, à l'issue de ce vote, que le dossier était clos. Mais dans son communiqué du 24 octobre 2010, mettant en avant les notions de déontologie et d'indépendance, le SAF avait cru pouvoir titrer « Avocat d'entreprise, clap de fin ». Eh bien non, coucou, le revoilà. Bien que, lors de l'AG extraordinaire du 3 octobre 2014, le CNB s'est prononcé à nouveau contre, par une majorité, ne souffrant pas cette fois de discussion. 50-23. Outre les gardiens d'indépendance et déontologie, qui fondent l'exercice libéral de notre profession, créer un statut d'avocat en entreprise, ou en abandonnant le secret des avocats aux juristes d'entreprise, c'est l'essence même du secret et de l'absence de conflit d'intérêts qui est en jeu. En ce qui concerne la possibilité de création d'exercices multiprofessionnels du droit et du chiffre, ainsi que l'ouverture du capital des SEL entre ces mêmes professions, cela constitue un risque de mélange des missions et fragiliserait en la désintention de la déontologie de l'avocat. La nécessité exprimée par certains grands barreaux parisiens de se capitaliser ne peut se faire au détriment de l'indépendance et du secret professionnel qui ne peut être partagé. Ce mélange des genres est également à l'œuvre dans les travaux de simplification, du Conseil de simplification, qui a proposé fin octobre que les experts comptables puissent conseiller juridiquement les TPE, ce qui n'est pas acceptable. Sinon, à terme, on met le doigt dans l'engrenage. On aboutit aux ABS, Alternative Business Structure, la boutique en supermarché, avec capitaux du supermarché et l'avocat à l'intérieur. Qui est preneur? Nous, nous avons anticipé en choisissant le thème de notre congrès. L'avocat n'est pas un prestataire de service, le droit n'est pas une marchandise. À nous de réagir, il convient de rappeler ici ce que nous disait il y a 20 ans déjà notre regretté Tiennot Grumbach. Il nous faut former des avocats qui conçoivent le droit comme un outil au service de la parole des autres et qui refusent les formes d'une application automatique de la norme de droit. Des avocats capables de proposer le changement de la jurisprudence si elle n'est pas en cohérence avec les aspirations de telle ou telle composante du mouvement social. Mais il doit être aussi un désorganisateur, un trublion, un déstabilisateur de la jurisprudence constante au profit de la création de droit. Nous nous démarquons des partisans de la seule formation à finalité professionnelle pour garantir la même profession où l'acquisition des principes généraux du droit permettent la défense et le conseil, se situant toujours dans la compréhension des changements et des bouleversements du monde de la société civile, pour que chaque avocat puisse être encore et toujours un désorganisateur de normes, un constructeur de normes nouvelles, un agitateur d'idées, bref, un révolutionnaire du droit, par le droit, pour le droit. Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans dire toute ma gratitude à celles et ceux qui m'ont accompagné cette année. Les membres du bureau, tout d'abord, Isabelle Duguay, Laurence Roch, Noura Mara-Lebray, Pierre Boisise, Mouno Redstock, avec quand même une mention particulière à Florian Borg, mon vice-président, qui a été cette année mon complice et qui devrait être à l'issue de ce congrès le prochain président de notre syndicat. Les responsables des commissions, épine dorsale du syndicat, Jean-Louis de Merseman pour l'accès au droit, Noura Mara-Lebray pour la consommation logement, Céline Benachour et Laurence Ifferman pour la discrimination, Aurélie Lebel et Valérie Grimaud pour la famille, Jean-Marc André pour l'hospitalisation sans contrainte, Émiline Lachal pour les étrangers, Dominique Mauger pour l'international, Bruno Redstock pour la pénale, Aline Chanu et Jean-Luc Vaban pour la sociale, et Didier Ligier pour tous les recours auprès de toutes les juridictions. Les élus au conseil syndical, bien sûr, sont trop nombreux pour les citer tous, mais c'est par les discussions, les échanges que nous avons ensemble chaque mois que le SAF avance. Nous devons fonctionner dans le cadre de relations horizontales, ce qui implique autonomie, responsabilité et capacité d'initiative. Très important enfin, et encore plus cette année d'élection, nos élus au CNB, avec qui nous avons su fonctionner en synergie tout au long de cette année fertile en événements. Catherine Glon, membre du bureau, Philippe Chaudon, président de la commission Liberté et Droits de l'Homme, Françoise Matt, commission Texte et International, Marianne Lagru, commission Liberté des Droits de l'Homme et Formation, Bertrand Couder, commission Règles et Usages, Franck Hurtfrey, commission formation. Nos deux élus ordinaux, Myriam Picot, présidente de la commission accès au droit, Yves Tamé, vice-président de la commission accès au droit, et nos trois personnalités qualifiées, Odile Bellinga, Sylvain Roumier et Alain Mikowski. Un grand merci également à ceux qui nous représentent dans les organismes techniques de la profession et qui démontrent par la même notre implication. À nos 16 élus à la CNBF, dont Serge Rosenbly est le vice-président. Jean-Louis Bory pour le SAFE. Guy Dupeigne et Georges Vauvillet, que je remercie chaleureusement alors qu'il part à la retraite, à la CREPA. Nicolas Gangloff, qui siège au bureau de l'ENADEP. Aline Chanu, Sylvain Roumier à la CPNE. Vincent Vieille et Sylvain Roumier au FIFPL, qui en préside d'ailleurs la commission juridique. Je veux dire à ce propos à Sylvain, qui est en butte à des attaques infondées alors qu'il n'a fait que défendre les intérêts matériels et moraux de ceux qui le représentent, qu'il a tout le soutien du syndicat, qui saura lui faire rendre tout son honneur. Nos deux fidèles amis à la Cour de cassation, au Conseil d'État, Hélène Masse de Seine, Olivier Coudray. Il me faut aussi mentionner nos représentants à l'AED, notre syndicat européen, Pascal Talman, Didier Ligier et Laurence Roch. L'AED organise chaque année la journée de l'avocat menacé. Cette année, c'était la Colombie. Soyez nombreux le 23 janvier 2015 devant l'ambassade des Philippines. Philippe ? 23 janvier 2015. Merci, merci, Didier. Je ne saurais bien sûr oublier mon associé Martine Coquerilla, mon collaborateur Nicolas Gallon et notre secrétaire Christelle Pomarède qui vont tourner le cabinet en mon absence. Et last but not least, nos deux secrétaires du siège, toujours présentes à ne pas compter leurs heures, Marie-Hélène Madre et Catherine Germaine, notre formidable Catherine. Qui devrait, au printemps prochain, prendre sa retraite, et à laquelle je tiens à rendre un hommage particulièrement mérité. Enfin, au terme de deux années de mandat, qui ont été riches en rebondissements, difficiles parfois, mais ô combien stimulantes, je voudrais saluer mes prédécesseurs qui m'ont tant appris et apporté lors de mon retour à la profession en 2003, après 14 années passées ailleurs. Daniel Joseph, qui m'a remis le pied à l'étrier en m'incitant à recréer la commission consommation. Pierre Conil, sous le président duquel j'ai été membre du conseil syndical pendant un an et qui a institutionnalisé la renaissance de la commission consommation en lui adjoignant le logement. Régine Barthélémy, qui m'a appelé au bureau lors de la seconde année de son mandat. Jean-Louis Bory, qui m'a confirmé au bureau et pour qui et avec qui la traversée de la place de la Concorde lors du Xème mouvement Solagie restera un fort souvenir. Et enfin, Pascal Talman, dont je serai le vice-président, après avoir entre-temps fait mes classes comme membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier. À propos des Conseils de l'Ordre, je vous incite à les investir, parce que c'est formateur qu'on peut ainsi diffuser nos idées et prendre aussi des responsabilités. Je salue à cet effet nos quatre bâtonniers, Philippe Le Seine à Rouen, Gilles Violante à Bayonne, François Arthur à Poitiers, Valentin Césari à Nice, et nos deux bâtonniers désignés, Isabelle Duguay à Bayonne et Edith Verger-Morligen à Limoges. Un grand merci enfin à vous tous et toutes qui êtes ici présents. Vous êtes le SAF en mouvement. Oui, le SAF est en mouvement et en ordre de marche pour les élections au Conseil national du barreau qui se tiendront le 25 novembre prochain. Un CNB utile pour une profession forte et solidaire. Merci.
Mesdames et messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les bâtonniers, monsieur le garde des Sceaux de la République de Guinée qui se sauve. Monsieur, à bientôt. Monsieur le bâtonnier de Clermont-Ferrand et les membres du Conseil de l'Ordre. Madame le Président de la FNUJA, chère Anne-Lise. Monsieur le représentant de la Conférence des bâtonniers, mon cher Franck. Monsieur le Président, très cher Jean-Jacques. Messieurs, mesdames et messieurs, les anciens présidents du SAF. J'ai retrouvé quelques anciens amis, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil syndical du SAF. Mes chers confrères, chers amis, laissez-moi d'abord remercier Jean-Marie Burguburu, président du Conseil national des barreaux, qui, du fait de son empêchement, me permet d'être parmi vous aujourd'hui, espérant que vous ne soyez néanmoins pas trop déçus. Le message dont je suis le porteur est le sien, il est celui des membres du bureau et des membres du Conseil national des barreaux. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement celui que l'on pourrait qualifier, si le titre existait comme il existe dans un autre syndicat, mais du SAF, de membre d'honneur du CNB. Je veux parler ici de Jean-Jacques Gandini, tant il y est présent et assidu, parfois et même souvent plus qu'un certain nombre d'élus du Conseil national des barreaux. Je suis fier de connaître Jean-Jacques, c'est un homme de conviction, de parole et d'action. Je veux aussi saluer mes complices au Conseil national des barreaux que j'ai plaisir à retrouver ici. J'ai vu Marianne, Philippe, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu Françoise, j'ai vu Franck, je n'ai pas vu Bertrand Couder, mais je le salue tout autant. Et je salue également et tout particulièrement ma complice du bureau, Catherine, forte et attachante personnalité que j'ai le plaisir de côtoyer à l'occasion de différentes mandatures du Conseil national des barreaux et qui fait un travail remarquable dans notre institution représentative. Ce 41e congrès traite d'ailleurs d'un sujet qu'elle connaît bien, la justice du 21e siècle. Vaste thème, à un moment où notre profession est malmenée, attaquée de toutes parts. Par le gouvernement d'abord, qui nous poursuit de ses assiduités méconnaissant ainsi le proverbe que celui qui trop embrasse mal étreint. Par les experts comptables ensuite, qui n'ont de cesse de vouloir conquérir notre métier en se gardant d'avoir la formation, la déontologie, les compétences, et nous en faisons l'expérience chaque jour dans les dossiers que nous récupérons après qu'ils soient passés. Par les braconniers du droit encore, de tous acabits, qui profitant de la flexibilité de la toile se permettent tout et n'importe quoi, par ceux qui ont compris qu'Internet constituait un levier essentiel pour exploiter un marché juteux du droit, au détriment des acteurs naturels et légitimes qu'en sont les avocats. Par les juristes aussi, qui veulent devenir avocats salariés en entreprise au mépris de l'indépendance, de la confidentialité, du secret professionnel et de la déontologie qui sont notre ADN. Par la crise économique enfin qui, avec décalage, frappe notre profession et notamment les plus jeunes d'entre nous. Dans un tel contexte, comment pouvons-nous faire front? Car c'est de cela dont il s'agit, effectivement, faire front. Pas en étant systématiquement négatif, car nous passerions pour des passéistes rétrogrades attachés à des traditions d'un autre temps. Cela étant, j'avoue que personnellement, je suis prêt à assumer ce titre. Si on devait considérer que brader la profession, renoncer à ses valeurs, qui sont séculaires, la laisser se dissoudre en avocat en entreprise ou permettre au supermarché d'entrer dans son capital devait constituer une soi-disant avancée moderniste à laquelle les avocats de terrain que nous sommes ne comprendraient absolument rien. On peut être moderne sans vendre son âme au diable, on peut être un avocat du 21e siècle sans se laisser acheter par le plus offrant. On doit être un avocat fier de la confiance que constitue le privilège de défendre des hommes et des femmes de ce pays, quelles que soient leurs conditions sociales. Mais on ne doit pas admettre que l'on nous bafoue, que l'on nous contraigne, que l'on nous impose ce que nous ne pourrons jamais accepter. Car nous n'accepterons jamais, et le CNB l'a voté, que la profession paye pour avoir des clients. Je veux ici faire allusion à l'aide juridictionnelle et à la réforme qui nous attend. Nous ne voulons absolument pas d'une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets. Nous ne voulons pas plus d'une contribution volontaire obligatoire de solidarité mettant à la peine les carpas et les barreaux aux finances déjà affectées par des taux d'intérêt qui relèvent du symbole, n'est-ce pas, monsieur le bâtonnier de Clermont-Ferrand, je l'ai entendu tout à l'heure. Le terme même, d'ailleurs, prêterait à sourire s'il n'émanait pas d'un député, le désormais célèbre Le Bouillonnec, car comment une contribution volontaire peut-elle être obligatoire, de même qu'une contribution obligatoire n'a plus rien de volontaire. Madame le garde des Sceaux, qui ne sait pas ce qu'elle rate en ne venant pas ici, aujourd'hui, nous a dit lors de notre convention nationale, tenue il y a un peu moins de 15 jours, qu'en matière de dette juridictionnelle, elle ne ferait rien contre nous. Le problème, c'est qu'elle ne fait rien avec nous. Pourtant, nous en avons fait des propositions sur ce sujet. À titre personnel, depuis que je suis dans la profession et que je milite syndicalement, puisque j'ai milité et je continue de militer syndicalement, à l'époque c'était un peu différent, dans le Val d'Oise, quand on s'inscrivait, on était d'office membre du SAF et de l'UJIA. Donc j'ai été pendant quelques années adhérent aux deux syndicats. Voilà, je ne renie rien. Et donc c'est vrai que depuis que je suis entré dans cette profession, j'entends parler de l'aide juridictionnelle comme tous ceux qui sont ici présents et en particulier probablement les plus jeunes. Pour ma part, j'ai commencé avec le rapport de Paul Boucher, le premier, et puis il y a eu un certain nombre de travaux. À titre personnel, j'ai travaillé avec Francis Jacob, avec Paul Boisise, et nous sommes arrivés au protocole de décembre 2000, et puis depuis, à peu près plus rien. Nous sommes fiers au Conseil national des barreaux que Myriam Picot, Yves Tamet, Yannick Salah et quelques autres se soient impliqués comme ils l'ont fait pour être au nom du CNB une force de proposition concrète et utile. Mais non, à la chancellerie, on continue qu'il serait fondamentalement anormal que nous ne participions pas au financement d'une mission de service public que nous effectuons dans des conditions qui font souvent honneur à ceux qui les assument. Madame Taubira nous a dit que pourtant, notre participation serait indolore pour les cabinets ne faisant pas d'aide juridictionnelle. Elle a dit une demi-heure ou une heure de facturation, 300 euros. Le principe même est choquant. Connaît-on une autre profession qui paye pour travailler? Si on y met le doigt, on y laissera le bras. 300 euros la première année, combien après? Voyez le timbre fiscal en appel. Déjà contestable à l'origine, il est passé en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, de 150 euros à 225 euros. Si on relie cela aux autres réjouissances que nous concocte M. Macron, comment peut-on être satisfait? Nous sommes la moins réglementée des professions réglementées. Et évidemment, nous ne pouvons être contents qu'après une prétendue concertation qui relève plus de la mascarade que d'autre chose, l'on nous supprime sans délai la territorialité de la postulation. Ici, pas de préavis, pas de délai de prévenance raisonnable, le couperet veut tomber implacable. Le CNB a fait connaître tout le bien qu'il pensait de cette mesure à l'occasion de son Assemblée Générale Extraordinaire du 3 octobre 2014. On lui a dit, mais on lui avait dit aussi sur un autre sujet d'avocat d'entreprise, vous prenez l'immobilisme. Est-ce qu'on doit dire à celui qui est au bord du ravin qu'il est vraiment stupide de ne pas avancer? La suppression de la territorialité de la postulation, également préconisée par un rapport Ferrand, pas Clermont-Richard, interpelle aussi sur le rôle et la fonction des ordres et des carpas. Il suffit, comme l'idée a été émise, que l'on n'assujettisse plus les installations de cabinets secondaires au contrôle et à l'autorisation préalable des ordres pour faire voler en éclats notre organisation professionnelle et partant la carte judiciaire actuelle. De cela, le Conseil national des barreaux ne veut pas, pas plus qu'il ne veut de la création de déserts juridiques ou de zones de non-droit. La postulation devant la Cour nous est présentée comme étant une solution intermédiaire qui serait à prendre, sinon rien. Le CNB ne veut pas plus de la participation, même limitée, au capital des sociétés d'exercice libéral, des hommes du chiffre, et moins encore de tiers issus de professions non réglementées. En Angleterre, il existe ce qu'on appelle les ABS, les Alternative Business Structures, qui permettent effectivement à un supermarché de détenir l'intégralité d'un cabinet d'avocats, et comme vous avez le rayon crèmerie, et bien vous aurez le rayon juridique avec l'avocat, et ça, c'est parfaitement inadmissible. Au Canada, on peut être concessionnaire automobile et avocat. Eh bien non, en France, ça n'est pas possible, et on ne s'orientera absolument pas vers cela. On ne peut que souscrire au communiqué diffusé par le SAF, ça doit être le 60e, cher Jean-Jacques, lorsqu'il déplore un glissement diffus mais certain vers un grand marché du droit qui porte atteinte aux garanties déontologiques protectrices du justiciable. Ajoutez effectivement à cela la mesure 45 du Conseil de la simplification, qui propose d'autoriser les experts comptables à donner des consultations juridiques qui ne seraient plus l'accessoire d'une prestation comptable, et on aura compris la volonté de démanteler notre activité au mépris de la compétence qui est la nôtre et au détriment des justiciables, y compris des TPE et des micro-entreprises. Évidemment, il n'est pas question de prendre en considération les garanties déontologiques que nous offrons et la possibilité pour les experts comptables de démarcher commercialement toutes les entreprises, là où les avocats ne peuvent faire que maintenant de la sollicitation personnalisée. Évidemment, on ne tient aucun compte de l'avis de l'autorité de la concurrence du 27 mai 2010, indiquant que les experts comptables, je cite, « n'étaient pas soumis au niveau d'exigence et de contrainte des avocats ». Enfin, on veut nous imposer l'avocat salarié en entreprise qui ne respecte pas les principes essentiels de la profession. Jean-Jacques a rappelé le vote du CNB du 3 octobre dernier, du Canada Dry d'avocats, et le CNB ne s'y est effectivement pas trompé. Madame Taubira, lors de notre convention nationale, nous a dit qu'elle n'y était pas favorable non plus. J'avoue que j'ai du mal à comprendre en quoi la création de ce statut serait vecteur de croissance, et je crois que personne n'a encore trouvé d'ailleurs. Pour être complet sur ce sujet, et pour vous livrer des informations qui remontent pas plus tard qu'hier, le projet de loi qui est sorti de la chancellerie et qui s'appelle « Pour une adaptation des professions juridiques et judiciaires à la justice du XXIe siècle », Catherine, ça doit te parler, vient nous dire effectivement, ce projet qui va être soumis à l'interministériel et qui va être transmis au Conseil d'État le 12 novembre prochain, vient effectivement nous dire suppression de la territorialité de la postulation avec instauration d'une postulation de cour, et non pas avocat en entreprise, mais l'égal privilège pour les juristes d'entreprise. Nous allons effectivement, comme l'a rappelé Jean-Jacques, nous réunirons une assemblée générale extraordinaire du Conseil national des barreaux le 14 novembre prochain, c'est-à-dire vendredi prochain, pour décider des mesures à mettre en œuvre face à ces propositions, étant précisé que tout ce qui a trait à l'ouverture des capitaux des selles à l'extérieur et les autres mesures qui étaient proposées dans le rapport Macron sont toujours en discussion dans le cadre du rapport Macron. Donc on n'a aucune garantie de ce point de vue-là. Enfin, pour conclure, je tiens ici à vous dire que si le CNB n'est pas toujours bien perçu des confrères, c'est qu'effectivement il a du mal à se faire connaître, à communiquer sur ses actions, et qu'on l'interpelle à chaque fois, souvent parce qu'on déplore qu'il n'y ait pas d'union et qu'il n'arrive pas à parler simplement et en étant le seul au nom de la profession. C'est vrai que cette mandature a connu des péripéties qui ont perturbé son activité sans vraiment, néanmoins, l'en empêcher. Le bilan de la mandature, qui sera prochainement diffusé, et ceux qui se donneront de la peine de le lire seront malgré tout surpris de constater l'ampleur du travail qui a été accompli, un travail pointu, minutieux et diversifié, auquel quasiment tous les élus de cette mandature peuvent être associés, à part un ou deux sur lesquels on a du mal à mettre un visage. Le CNB reste malgré tout une jeune institution de 22 ans, avec la détermination d'élus motivés, et il doit faire l'union des hommes et des idées. Qu'il faille améliorer sa gouvernance après 22 ans, après une expérimentation, puisqu'on est parti d'une feuille blanche à la base, qu'il faille améliorer sa gouvernance ne choquera personne. Un CNB fort saura imposer les vues de la profession sans que les pouvoirs publics exploitent des divisions auxquelles, avec un peu de bonne volonté, nous pouvons remédier. Hommage soit ici rendu aux élus du SAF qui, depuis la création de l'institution représentative de la profession, l'ont toujours défendu avec détermination et fermeté, comme d'autres syndicats, et je ferai ici particulièrement allusion à la FNUJA, et qui ont les uns et les autres œuvré pour l'action et la légitimité du Conseil national des barreaux. Soyons créatifs, soyons inventifs, inventons effectivement ensemble le CNB du XXIe siècle au service des avocats, défenseurs inconditionnels d'une profession menacée de disparaître ou de se diluer. Alors je ne vais pas citer René Char ou Aimé Césaire, mais j'aime bien Steve Jobs. Et Steve Jobs, il a dit « Soyons insatiables, soyons fous ». Eh bien, je pense qu'on pourrait faire de cette devise de Steve Jobs la devise de la profession. Je sais que nous pourrons encore et toujours compter sur le SAF pour être un ardent promoteur de notre institution. Et en son nom, Je vous remercie. Excellent congrès.
Il est vraiment...